On prend le temps cet été, on se pose. On va parler tourisme, animation et culture dans l'estival du local. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire de l'été sur l'autre radio, l'estival du local. Et même si la météo n'est pas au rendez-vous, nous sommes bien en été avec de multiples initiatives et animations dans le département. Initiative, je le disais, avec un tout nouveau festival ce week-end en pleine nature à Andouillé, festival pour les jeunes artistes et créateurs porté par des jeunes, mais aussi un drôle de concert où les musiciens joueront sur l'eau et une reconstitution historique de la libération de la Mayenne en août 44 sur le chemin de la 90e division d'infanterie américaine de Fougerolles du Plessis jusqu'à Saint-Jean-sur-Erve. Première étape au vert à Andouillé pour ce tout nouveau festival L'Arbre Bavard. Il a lieu ce samedi et dimanche avec au programme une dizaine de spectacles d'art vivant sur 4 scènes différentes, sans oublier une balade comptée. L'événement est porté par 40 bénévoles et surtout les 8 jeunes organisateurs. Nous en avons rencontré 3 dont l'une des présentations a été malencontreusement coupée par le micro. Il s'appelle donc Guillaume Salmon et est accompagné de 2 autres organisatrices.
Moi je m'appelle Manon Savary. J'ai 22 ans et je suis au Conservatoire de théâtre de Nantes.
Et moi, c'est Alice Maboulet, j'ai 22 ans aussi et je suis au Conservatoire de Montpellier, pareil, des études de théâtre.
Et donc justement, ce festival L'Arbre Bavard, il y aura la première édition qui se tient les 7 et 8 août ici à Andouillé. Qu'est-ce qui vous a donné envie déjà, tout simplement, de créer ce festival ?
C'était une idée qui vient de la frustration du premier confinement où on était tous enfermés et on ne pouvait plus jouer nos spectacles parce qu'on était, pour une bonne partie de l'équipe, tous au Conservatoire du Mans. Et donc, voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et de fil en aiguille, en fait, après avoir posé des questions un peu autour de moi à des professeurs ou des artistes professionnels, j'en suis arrivée à réunir l'équipe qu'on est aujourd'hui, qui est, on est 8. Et le projet, il a grandi, mûri, jusqu'à devenir un projet vraiment de festival où on s'est dit qu'on allait représenter en plein air voilà, des petites jauges, des petits spectacles et que les gens pourraient choisir ce qu'ils vont voir. Et voilà, ça donne la première édition.
Quelle est justement l'identité de ce festival? Puisque premier festival, vous l'avez dit, on a compris comment l'idée elle est née. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourra retrouver justement ces 7 et 8 août?
Alors du coup, il y aura 11 spectacles, une balade comptée et un concert avec 3 groupes de musique. Et du coup, les spectacles, ça sera plutôt du théâtre ou du cirque. Et la particularité du festival de l'Arbre Bavard, c'est que toute la programmation, c'est des jeunes créateurs et des créatrices, donc des jeunes artistes qui sont soit des jeunes professionnels ou des jeunes qui sont encore en études ou qui viennent de sortir de leurs études. Et donc voilà, c'était important pour nous, surtout dans cette période-là, de soutenir les jeunes créateurs et créatrices. Et pour nous, en fait, le festival, c'est devenu presque une plateforme de soutien à tout ce monde-là. Et on a hâte de réunir tout le monde à Andouillé. Je pense que ça va être super.
11 spectacles, 3 concerts, aussi une balade comptée. Comment ça s'est fait, justement, cette programmation ?
On a fonctionné par appel à projet, qui est peut-être un peu inhabituel dans le milieu des festivals, mais en fait, on a passé un appel sur les réseaux sociaux en disant qu'on recherchait des formes théâtrales ou dansées ou du cirque, enfin, de l'art vivant. Et on avait donné quelques critères, que ce soit des formes comprises entre 30 et 45 minutes à peu près, que ce soit par des jeunes artistes. On a reçu pas mal de réponses parce qu'on a reçu un peu plus 35 à peu près, et donc on a dû faire une sélection et ça a été un peu difficile, mais ça a été très chouette et on a choisi les 11 spectacles qui sont là pour cette édition.
Ce que j'ai trouvé compliqué, c'est que d'un coup on s'est retrouvé dans une posture de programmateur, et c'était quand même assez une posture inhabituelle pour nous. Et c'était aussi super important parce que comme c'était la première édition et qu'on choisissait les spectacles qui venaient, en fait ça allait donner un peu l'identité artistique du festival. Et en fait, on a vraiment fonctionné au coup de cœur. On a aussi essayé de penser la programmation pour qu'elle soit la plus variée, la plus complète possible, et que tout le monde, au final, y trouve son compte. C'est que ça soit... On est assez content d'avoir pas mal de diversité.
Vous parliez de coup de cœur, du coup, est-ce que chacun, vous avez un ou deux qui vous plaisent particulièrement, ou vraiment, justement, lors des discussions, il y a eu ça, vous disiez, ce groupe-là ou cette compagnie-là, je veux absolument qu'on les reçoive ce week-end-là.
Bah, il y en a plusieurs. Bon, il y en a, on a un spectacle de cirque là sur le festival que on est vraiment très content d'avoir parce que ça apporte de la diversité et ça fait que du coup on n'a pas que du théâtre et ça c'est vraiment chouette aussi pour les gens. Donc ça, je sais que c'était important pour moi qu'il y soit. Et puis il y a un spectacle sur les années 50, sur la Beat Generation, qui est un sujet qui me touche beaucoup et qui musicalement et artistiquement et dans l'esthétique vraiment moi m'intéresse. Je ne l'ai pas vu évidemment parce qu'on a des dossiers surtout écrits, mais le dossier m'a vraiment ça m'a touchée, ça m'a donné vraiment envie de le voir. Donc ça fait partie des deux projets. Je sais qu'il y en avait d'autres aussi, mais ces deux là je m'étais dit s'ils y sont pas je serais triste, très triste, voilà.
Je sais qu'il y a un projet qui m'a beaucoup intrigué et beaucoup plu. C'est un projet qui mêle le théâtre, les arts plastiques, la performance, et vraiment basé autour des costumes. Et enfin, j'ai jamais vu de spectacle comme ça. Je suppose aussi que ça va impliquer vraiment des choses assez corporelles et tout. Et je suis vraiment très intrigué par cette compagnie qui va venir.
On a toutes et tous eu pas mal de coups de cœur ou quoi. Il y a un spectacle sur lequel on était assez tous d'accord qui s'appelle Sherpeur. Parce que aussi, là, on a eu des vidéos qui nous ont beaucoup parlé et je sais pas, il y avait quelque chose de très poétique qui nous a tous parlé à ce moment-là. Et sinon, oui, je suis d'accord avec Guillaume et Alisma. Globalement, ça a été un crève-cœur de devoir dire non aux autres. Donc, on a même eu des coups de cœur qu'on n'a pas pris, quoi. C'est compliqué.
Donc là, c'est la seule scène qui est un petit peu de ce côté-là, c'est
ouais,
ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu la seule qui est de ce côté. Et les trois autres sont dans le même champ. Là, on voit la scène 2, on va y aller, mais parce qu'il n'y a pas d'accès par ici. C'est vraiment pas mal comme site, c'est joli. Il y a la rivière, la balade comptée passe sur les pages japonais. Il y aura une scène dessous et le public par là. Et qui peut ressortir par l'autre entrée, pour pas qu'on se croise trop.
Pour une première édition, il y a plein de choses qu'on découvre et on a un peu la surprise de se dire « Ah oui, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça. » Et du coup, ça nous prend un peu plus de temps que prévu. Et justement, en fait, on découvre que les choses prennent plus de temps que prévu, justement. Par exemple, ça peut être de banderoles qu'on a dû peindre qui nous ont pris des heures et des heures alors qu'on pensait que ce serait plus rapide que ça. Puis aussi, il y a beaucoup de choses physiques où il faut préparer le terrain, par exemple, là, où il y a plein de choses à déplacer. Voilà, donc faut penser un peu à tout, mais heureusement, on a plus ou moins d'expérience dans l'association. Et puis, il y a quand même des personnes, je pense à Yvan, qui a déjà beaucoup d'expérience à la matière et qui pense à beaucoup de choses au point de vue technique.
Ça va parce qu'on panique pas complètement et on gère le truc, on se dit bon, bah, on va faire comme ça. Et puis je pense qu'on est capable d'abandonner quelque chose qui va être trop compliqué si jamais on s'en rend compte que ça va pas marcher. Mais ouais, tout bêtement, c'est des choses aussi des fois qui sont prévues mais qui marchent pas quand même. Genre, on a emprunté des toilettes sèches au festival des Fonds de la Rue et on devait prendre des toilettes PMR pour les personnes qui viennent et qui ont des problèmes de mobilité. Et en fait, tout bêtement, on pouvait pas les prendre parce qu'elles étaient trop lourdes et même le camion qu'on avait loué, ça marchait pas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on retourne les chercher. Enfin, c'est juste des trajets comme ça qu'on n'a pas prévu de faire et qu'on doit refaire. Puis il y a des choses aussi qu'on pourra pas prévoir avant le moment JT. Et ça, c'est un peu stressant aussi sur certaines choses. Bon, c'est l'aventure, quoi.
Là, comme c'est la première édition, on fait plein de choses pour la première fois et c'est super chouette. Moi, par exemple, je suis plutôt responsable de la communication et du coup, j'ai fait plein de choses pour la première fois cette année. J'ai créé un site internet, ce qui est incroyable. Je pensais pas que j'allais faire ça dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que j'y arrive, quoi. C'est dingue. Même des trucs où je deviens plus à l'aise sur Photoshop, juste des trucs comme ça, quoi. Et si un truc qui m'a surprise et que je pensais pas forcément, c'est que je découvre qu'il y a énormément d'entraide dans ce milieu-là. Enfin, toutes les personnes qu'on appelle, les autres festivals, les artistes, les professionnels, et tout le monde est super à l'écoute et super là pour nous aider. Et c'est vraiment génial. On se fait prêter plein de choses, ou même des conseils. Enfin, c'est super génial de ce point de vue-là.
C'est avant tout pour le moyen de se donner les moyens un peu aussi dans ce milieu-là. On prend les choses en main, en fait, avant qu'on soit perdu dans on n'a plus d'école parce qu'on vient de terminer et on ne sait pas quoi faire. Pour moi, en tout cas, c'est le moyen de faire ce que j'ai envie de faire et de ne pas attendre de trouver, en fait. Voilà. Je me dis, au moins, avec cet outil-là, si on peut appeler ça un outil, eh ben, on a de quoi développer nos envies, de quoi les partager avec d'autres compagnies et puis de quoi voir aussi avec les autres gens qui vont être là, quelles idées ils ont et si ça se mélange et comment on fait. Enfin, et ça, c'est vraiment une richesse, je trouve, pour nous. et puis une chance, et j'ai hâte qu'on puisse le partager avec tout le monde, quoi, tous les autres qui vont être là la semaine prochaine.
L'interview ayant été enregistrée un petit peu avant, on parle bien sûr de ce week-end, le samedi 7 et dimanche 8 août, de 14h à 21h, et même jusqu'à minuit ce samedi avec les concerts. L'entrée est gratuite avec le pass sanitaire, mais la réservation est conseillée via le site larbre-bavard.fr. On parle désormais d'un autre concert, non plus à la campagne, mais au bord de l'eau, grâce à un kata piano, un piano flottant installé sur un catamaran. Spectacle original et inédit, intitulé Sabir, et proposé par la compagnie Le Piano du Lac, avec 4 représentations ici en Mayenne. 2 sont prévues ce jeudi et vendredi à 19h à l'écluse de la Bénâtre à Aurigné, et 2 autres ce samedi et dimanche à 20h à l'étang de la Rincerie à la Selle Cranaise. Nous avons joint par téléphone la pianiste de cet étonnant spectacle.
Je suis Cécile Wouters, je suis pianiste pour la compagnie du Piano du Lac. Je joue dans le projet, le spectacle Sabir, qui est en tournée dans les Pays de la Loire et en Bretagne jusqu'au 29 août.
Et qui passe donc parmi cette grande tournée en Mayenne, ici ce jeudi et vendredi à Aurigné et ce samedi et dimanche à la Selle Cranaise. Justement, le principe donc de la compagnie, évidemment, le Piano du Lac, c'est de jouer sur l'eau. Qu'est-ce que ça change déjà, tout simplement, de jouer sur l'eau et de se produire sur l'eau ?
Déjà, c'est une sensation extrêmement agréable, parce que les éléments, parfois, peuvent être assez surprenants. Quand on joue, il se passe des choses, et il ne se passe jamais la même chose. Il y a parfois le chant des grenouilles, il y a des oiseaux qui se mettent à voler pendant un moment. Et puis ça crée une poésie qui est toute quand même plus particulière qu'en salle. Et puis c'est assez sympa de changer de lieu tous les deux jours parce qu'on découvre un décor différent à ce moment-là. Et on met en valeur aussi l'espace qui nous est consacré. C'est vraiment plaisant à faire.
Là par exemple, vous étiez déjà venu en Mayenne ou ce serait une première fois ?
Ça sera une première fois.
Et je pensais aussi, qu'est-ce que ça change au niveau technique pour vous de jouer et de chanter sur l'eau ?
Il faut s'adapter simplement au mouvement, parce que forcément le piano il est en mouvement, on navigue avec, il n'est pas forcément statique, et puis même quand il l'est à certains moments, quand on est ancré, on est 4 dessus, si on se met un petit peu à danser, à bouger, forcément le clavier bouge aussi, donc il faut s'adapter déjà à ça. Moi j'ai les pieds qui sont au ras de l'eau, j'ai les pieds dans le vide en fait, hein, ils sont pas posés par terre, donc ça c'est aussi un autre challenge si j'ai envie de dire. Non, il ne faut pas forcément jouer plus fort ou moins fort.
Et alors là, pour ce spectacle, justement, Sabir, il y aura plusieurs musiciens, évidemment, vous n'êtes pas toute seule. Comment ça sera organisé ? Qu'est-ce que les spectateurs pourront voir en cette fin de semaine ?
On est 4 musiciens sur le projet Sabir. Il y a un guitariste et banjoïste qui est argentin. Donc on jouera des musiques d'Argentine, des Chacarera et puis des Huayno. Il y a une flûtiste et chanteuse qui est d'origine polonaise, donc il y aura aussi de la musique traditionnelle polonaise, des chants polonais et des musiques polonaises. Il y a Laurent Labéjoff qui lui est aux percussions et au chant et qui vient des Antilles, donc il y aura aussi une mazurka antillaise et une compo à lui. Et moi-même qui suis au piano, je suis originaire de la France, et un peu de Belgique, donc il y aura des musiques de Belgique et du nord de la France. On essaye de représenter un petit peu tous nos univers dans ce spectacle, donc c'est assez coloré, on passe vraiment par plein d'ambiances différentes. Je vais jouer 2 Chopin aussi au milieu de tout ça, des solos. On passe par plein de formules aussi différentes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir autant des duos, des trios, du quatuor et du solo justement.
Comment ça se passe justement quand vous allez arriver à Aurigné pour installer le spectacle très concrètement ? Comment ça se passe pour installer le piano ? Vous, comment est-ce que vous vous préparez ?
Déjà, on est mobile, donc on déménage de campement tous les 2 jours. Donc là, quand on arrive dans un nouveau lieu, on installe d'abord notre campement. Ensuite, on se fait à manger ou enfin voilà, on mange. Et après le repas, on essaye d'aller voir sur le lieu de jeu où on peut mettre facilement, en tout cas le plus facilement possible, le dispositif flottant. Une fois que ça s'est décidé, on amène les camions avec les remorques, on installe d'abord le catamaran, on le met dans l'eau, ensuite on l'amarre et on sort le piano du camion et on le glisse avec un système de rampe, on le glisse sur le catamaran. On installe les percussions, le système des retours et puis le son. Voilà, il faut installer 4 ou 6 enceintes en fonction du nombre de personnes qu'on aura dans le public. Je pense que ça prend 2 heures à peu près de faire du montage avant chaque spectacle.
Et donc après, oui, forcément, il faut s'adapter dans ces cas-là à chaque fois au lieu, à la configuration, au nombre de personnes que vous attendez, sachant qu'il faut mieux réserver, c'est ça, si on veut voir le spectacle ?
Effectivement, c'est bien de réserver. Nous, ça nous permet de savoir à peu près sur quelle jauge on peut se baser, justement, pour faire toute l'installation. Sur le site internet, vous avez donc les 4 tournées qui sont actuellement parties, qui se produisent. Il y a une équipe en Espagne, il y a une équipe dans le sud de la France qui s'appelle Paga et Naval. Il y a une équipe aussi dans les Pays de la Loire qui s'appelle Deux Systèmes Solaires. Et nous, c'est Sabir, donc. Alors nous, on a une billetterie qui est volontaire. Ça veut dire qu'on estime que le spectacle coûte 10 euros. En tout cas, si tout le monde met 10 euros, nous, on arrive à peu près à rentrer dans nos frais. Mais par contre, c'est adaptable. Donc, il y a un prix de soutien qui est de 15 euros. Les gens peuvent mettre plus ou peuvent mettre moins s'ils n'ont pas les moyens. Voilà, ça fait rééquilibrer un peu la billetterie et de nous rentrer un peu dans nos frais aussi.
Et c'est une formule qui fonctionne bien jusqu'à présent ?
Oui, les gens jouent assez bien le jeu et puis ça marche assez bien, oui.
Jouer en extérieur, donc forcément c'est une ambiance particulière parce qu'il faut s'adapter à toutes les ambiances, quelles qu'elles soient. Oui. Est-ce que c'est aussi peut-être un autre public que celui que vous pouvez avoir dans des salles plus classiques ?
Ah bah bien sûr, oui. Bah déjà effectivement il faut s'adapter aux conditions, hein. Des fois on joue sous la pluie si elle est fine, si c'est vraiment la grosse pluie on ne peut pas jouer, mais ça demande de s'adapter tout le temps. Et puis effectivement ce qui est vraiment plaisant, c'est de pouvoir aller dans les lieux où on ne s'attendrait pas à voir un spectacle. C'est d'amener la culture un peu hors des salles. Par exemple, moi, j'ai fait une tournée dans le Nord, là, fin juin, début juillet. On a parcouru un canal qui s'appelle la Sambre. On est allé dans des lieux très reculés. Et les gens étaient très contents qu'on vienne à eux parce que, d'habitude, pour voir un spectacle, il faut aller jusqu'à Lille. Et c'est 1h30 de voiture. Et nous, on est hyper contents de pouvoir venir à la rencontre de ces publics et de pouvoir leur apporter de la joie, du bonheur, un temps d'échange privilégié, quoi. En fait, c'est un spectacle comme c'est assez varié, c'est assez bien reçu. Je pense que les gens ont besoin de recevoir de la bonne humeur en ce moment et un peu de joie. Bah, on essaie de les faire participer, les gens peuvent danser parce qu'il y a des polkas, des mazurkas, des chants quand même argentins qui font bouger un peu. C'est quand même une invitation et une incitation à la danse, à la bonne humeur. Puis les gens sont assez enthousiastes, ils sont vraiment contents à la fin du spectacle et nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a vécu quand même une année et demie très, très difficile. Là. C'est gagné pour nous quand on voit les sourires sur les visages à la fin du spectacle.
La compagnie espère donc décrocher autant de sourires en Mayenne dès ce soir et jusqu'à ce week-end. Réservation là aussi conseillée sur le site pianodulac.fr avec une billetterie volontaire où vous pouvez mettre environ 10 euros, mais aussi plus ou moins en fonction de vos moyens financiers. On fait une petite pause en musique et on écoute Phoenix avec 1901. Ideas drifting away. X avec 1901. Si vous les avez vus passer dans votre village, vous vous êtes peut-être cru dans un film au cœur de la libération de la Mayenne en août 44. Et non, pas de caméra à l'horizon pour filmer les soldats et engins militaires, mais une reconstitution historique portée cette semaine par l'association Mayenne WW2 avec un parcours allant de Fougerolles du Plessis lundi soir jusqu'à Saint-Jean-sur-Herve ce dimanche, retraçant celui de la 90e division d'infanterie américaine il y a 77 ans, avec des étapes dans une vingtaine de villages et notamment hier soir à Saint-Jean-sur-Mayenne avec camions blindés, tentes de la Croix-Rouge et bivouac installés pour la nuit.
Fabien Rossignol, le président de l'association Mayenne WW2. Alors l'association a été créée en 2009, on est une quarantaine de membres, et l'objectif de l'association c'est de faire de la reconstitution historique sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on participe à beaucoup de recherches historiques sur la libération de la Mayenne notamment, on est en contact avec des familles américaines aussi, des vétérans américains, et on fait beaucoup de recherches par rapport à tout ce qui s'est passé, on les accompagne aussi dans leur venue aussi en France, certains vétérans, et on fait des manifestations pour présenter au public l'histoire. Ça a commencé le 3, ça va se poursuivre jusqu'à 8 août, jusqu'à dimanche, et l'objectif réel c'est de célébrer la libération de la Mayenne, donc on est sur les dates de la libération de la Mayenne, donc c'est de repartir sur les traces de la division qui a libéré le Nord Mayenne, donc la 90e division d'infanterie notamment, qui a libéré toute la partie Nord Mayenne.
Donc vous disiez, au niveau des dates, ça correspond. J'ai l'impression qu'au niveau du parcours aussi.
Oui, exactement. On a essayé de faire en sorte de passer sur le parcours exact des unités. Donc par tous les endroits où les unités sont passées. Et essayer d'être au plus proche de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont, oui, de ce qu'ils ont fait au moment de la libération en Mayenne. Ouais.
Okay. Alors justement, pour ça, vous vous basez sur quoi pour avoir justement le parcours et puis les conditions aussi dans lesquelles ça s'est passé?
Donc c'est notamment grâce à tous les rapports aussi américains qu'on arrive à avoir, qui nous retracent tous les parcours des différentes unités, de tout ce qui s'est passé, et on arrive à se remettre un peu plus dans l'ambiance, notamment grâce à tous les témoignages aussi de vétérans qu'on a rencontrés. C'est beaucoup de documentation par rapport à tout ça, ouais. Donc on a commencé mardi à Fougerolles du Plessis, donc on est redescendu sur Saint-Denis-de-Gâtine, là on vient d'arriver en repassant par Andouillé à Saint-Jean-sur-Mayenne ce soir, et on repart demain, donc direction, on remonte sur Aron pour redescendre après sur Cham, et on finit par Sainte-Suzanne et Saint-Jean-sur-Herve, du coup.
Ça correspond vraiment en tout cas au parcours qu'a fait justement cette 90e division.
Voilà, ça correspond à différents parcours de la 90e division d'infanterie qui représente, voilà, il y a eu plusieurs régiments dans la 90e, donc c'est plusieurs bouts de régiments qu'on fait à suivre. Donc ce qui nous entoure, voilà, c'est à peu près 70 participants qui sont tous en tenue de soldats américains, et notamment aussi de jeunes femmes aussi qui représentent les Red Cross aussi qui sont présentes, à la Croix-Rouge, voilà, exactement, et aussi on a tout un tas de véhicules aussi, on a plus d'une dizaine de véhicules de présents, donc ça aille de la Jeep jusqu'à des chenillés qui sont présents aussi, qui sont présents sur le site. Ouais. Alors du coup, moi pour l'événement pour cette semaine, je fais partie de l'équipe du génie. Donc on est notamment spécialisé sur la partie déminage. Donc on va au moment où il y a besoin, avec des détecteurs de mines, déminer les chemins pour permettre à l'infanterie et aux troupes derrière de pouvoir passer en sécurité. Voilà, c'est ça notre objectif de la semaine. Tous les soirs, on est sur une commune différente, et tous les soirs, du coup, dès qu'on arrive, les tentes, le couchage se met en place. Souvent des petites tentes canadiennes pour les soldats classiques, et après d'autres aussi, c'est juste des bâches tendues entre les véhicules et on dort juste en dessous. Alors au niveau des repas, donc tous les midis, c'est chaque participant s'organise au niveau des repas. Donc ce qui est demandé, c'est que chaque participant fasse sa boîte de ration comme à l'époque. Donc on a tous des boîtes de ration qu'on a refait nous-mêmes et qu'on réutilise tous les midis. Et le soir, voilà, pour être un peu plus convivial, on fait venir un traiteur tous les soirs. Donc on mange mieux quand même le soir. On se rattrape le soir. On essaye au maximum de faire des parcours, donc des parcours avec des progressions à pied pour l'infanterie, avec des véhicules qui suivent par derrière. L'artillerie, on essaye de la mettre aussi en position de tir à certains endroits. Donc on essaye de faire des scènes à différents endroits. On ne peut pas le faire tout le long, mais on fait à plusieurs moments de la journée des scènes de reconstitution un peu plus poussées. Ouais.
On voit qu'il y a du public aussi qui est venu. Ça veut dire qu'on peut vous suivre tout au long de ce parcours justement et découvrir un petit peu plus comment a pu se passer la libération ici en Mayenne.
Oui, exactement. Donc tous les soirs, sur chaque bivouac, tous les bivouacs sont ouverts au public. Donc voilà, à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc voilà, tout est accessible au public. Ils pouvaient venir nous voir, échanger avec nous, voilà, profiter de ce moment de partage pour célébrer la libération de la Mayenne et commémorer ensemble tout ce qui s'est passé.
C'est ça votre objectif justement, et le côté partage de votre savoir historique et puis aussi la commémoration.
Oui, exactement. Pour nous, c'est le devoir de mémoire, c'est quelque chose de très important, et il est essentiel de transmettre l'histoire aux générations futures et de bien d'expliquer ce qui s'est passé et de remettre en condition la vie des soldats à l'époque. Ça permet d'être un peu plus proche aussi de ce qu'ils ont pu vivre à cette période-là. Pas mal de personnes, des fois, d'un certain âge qui reviennent et qui se souviennent de leur enfance et qui nous racontent ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vrai qu'on en apprend aussi des fois autant que ce qu'on peut leur apprendre aussi à d'autres personnes. La libération de la Mayenne, en fait, elle s'est déroulée sur 3-4 jours. Globalement, ils ont traversé. C'est pas pour autant qu'il s'est rien passé. Il y a eu de gros combats, malgré tout. Notamment aussi, voilà, quand on va faire une cérémonie samedi matin à Sainte-Suzanne, qui a eu des lourdes pertes au niveau de l'armée américaine. Donc, il est important, voilà, de commémorer tous ces passages-là, et que sur toutes les communes, il s'est passé quasiment un fait ou quelque chose. Donc, il est important de commémorer tout ça. On est tous passionnés, donc on se réunit, voilà, c'est nous l'association organisatrice, mais on se réunit avec d'autres associations pour réussir à faire tous ces événements-là. Ouais. Voilà, c'est toute la période de passion de l'histoire déjà dans un premier temps, et après c'est aussi des attaches au niveau familial aussi, personnes dans la famille qui ont connu cette période-là ou qui ont participé en tant que combattants aussi. Donc pour eux aussi, les participants, c'est quelque chose d'important de commémorer aussi la mémoire de leur aïeux aussi par ce biais-là aussi.
Moi je m'appelle Thibaut, donc là j'ai 18 ans. Là nous avec le reste de l'équipe, on est habillé en artilleur de la 90e division. Par exemple moi j'ai un petit outil qui change des autres, c'est la clé pour régler le retardateur des têtes d'obus. Par exemple un obus explosif s'il doit exploser un petit peu après, enfin tout ça. Donc là on a un canon de 155 mm, donc c'est le diamètre de l'ogive qui est envoyé. Là on a essayé de le mettre en place du mieux qu'on a pu avec l'équipement qu'on avait, comme il aurait pu être en août 44. C'est-à-dire qu'on a disposé un filet de camouflage afin d'essayer de brouiller les avions de reconnaissance qui vont passer au-dessus. Normalement le canon est un petit peu enterré, c'est-à-dire qu'ils creusent un petit périmètre, ils vont glisser le canon, comme ça il va être un petit peu plus protégé déjà. Et pour le recul, tout ça va permettre aussi un meilleur contrôle. Cette pièce-là peut tirer jusqu'à environ 17 km, donc c'est quand même un soutien lointain. Normalement, donc il en faut 12 sans compter le chef de pièce, c'est-à-dire celui qui va donner les ordres. Le chef de pièce, il va être c'est un sergent. Après, il y a les deux responsables, il y a le responsable tir et le responsable munition qui sont des caporaux. Et ensuite, il y a il y a des pourvoyeurs de 1 jusqu'à 9. Dans la partie munition, il y en a là, comme on a vu, lui, il est pourvoyeur, mais lui, c'est le tireur en gros. Donc il va être responsable de la petite ficelle, du petit cordon de tir, de la pose des amorces, de l'ouverture et fermeture de la culasse. Après, on en a un qui va être responsable de pousser la tête. Il y a d'autres équipes, on a les fouards d'observateurs qui vont aller un peu plus loin, enfin plus proche du coup, on va dire, de l'infanterie qui va être soutenue, afin justement de reconnaître le terrain et de pouvoir donner des indications par radio à l'équipe d'artillerie qui ensuite pourra faire ses calculs et régler son tir grâce aux informations qu'ils ont reçues. Pour la libération de toute la France, ces machines ont été utilisées, mais en Mayenne, oui, on retrouve aussi cette utilisation-là pour couvrir la progression des hommes de la 90e. Ça fait 10 ans que je fais de la reconstitution, après en US ça fait à peu près 4 ans. Donc au fur et à mesure des sorties qu'on fait, on rencontre des gens, tout ça, on crée des liens. Et quand il y a des gros événements comme ça de prévu, les gens qu'on a rencontrés, ils sont plus susceptibles de nous inviter, tout ça. Donc forcément, on peut ramener beaucoup plus de monde plus vite. Cette sortie-là, elle a un but quand même assez immersif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour présenter tout ça. On est là aussi pour voir un peu ce qu'eux ont vécu quand ils étaient là en août 44. On apprend beaucoup de choses. On a Vincent, de temps en temps, il nous fait un petit point historique sur ce qui s'est passé à tel endroit. Là, on n'en a pas eu énormément encore, des points historiques. Par exemple, on en a eu un sur les résistants de la Mayenne. On organisait un réseau, tout ça, et où il y avait justement des gens très influents dans la résistance qui se trouvent en Mayenne, et notamment sur tous les largages qu'ils ont eu. On était arrêté à un endroit où il y a une stèle, et où il y a eu un largage, il y a eu 40 tonnes d'armes, de munitions qui ont été parachutées, donc c'est assez énorme. C'est un moyen de vivre l'histoire déjà, puis on peut au moins se mettre à la place du maximum qu'on peut de ce que les soldats ont vécu à l'époque, et c'est, je trouve, un très bon moyen de leur rendre hommage. Même si ils vont pas forcément le voir ou quoi, puis la majorité sont malheureusement décédés, mais au moins nous on sait que ce qu'on a fait là, ça a servi à leur rendre hommage et qu'on les oublie pas, quoi.
Ils poursuivent leur parcours et seront de 18h à 20h pour un partage avec le public ce soir au château de Bourgon, demain vendredi à Cham aux mêmes horaires et samedi à Saint-Jean-sur-Erve. Voilà notre prescription culturelle et touristique de ce jeudi. Évidemment, c'est non exhaustif de toutes les animations proposées en Mayenne cet été. C'est la fin de l'estival du local pour aujourd'hui. Je vous souhaite surtout une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain.
C'est l'été sur l'autre radio.